Veuillez trouver dans votre Bible l'Évangile selon Matthieu et chapitre 6. Nous lirons les versets 24 à 30, 25 à 34, pardon. Notre Seigneur continue à enseigner à ses disciples et à nous comment vivre dans la présence du Père. Comment vivre sa vie dans le royaume, et ça veut dire dans la présence du Père. Et il nous dit ceci, verset 20, 25 que je commence. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangeons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera, pardon, de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Hervé était connu parmi ses copains comme, par son surnom, l'anxieux. Mais un jour, François a aperçu Hervé sur le trottoir opposé. Hervé qui sautillait presque et qui sifflait un refrain. Ses sourcils n'étaient pas froncés, sa mine n'était pas anxieuse, il était tout autre. Et bien sûr, François a dû traverser la rue tout de suite et dire, Hervé, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air anxieux. Et Hervé lui a expliqué, écoute, j'ai trouvé une combine, j'ai embauché quelqu'un pour se soucier à ma place. Et François dit, alors ça, c'est différent. Combien est-ce que ça coûte? Et Hervé lui dit, oui, ça me coûte 1 000 euros par semaine. 1 000 euros par semaine? Comment est-ce que tu vas arriver à payer ça? Eh ben, c'est pas mon souci, c'est le sien. Et donc, nous pouvons imaginer Hervé avec cette décharge. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous avons un Dieu puissant et un Père céleste qui nous dit, c'est à moi vos soucis, ce n'est plus à vous. Et nous voulons essayer de comprendre cette question des soucis, des inquiétudes, des anxiétés aujourd'hui, parce que le Seigneur nous dit que cela a une place importante dans notre marche avec lui. Donc, premier point, l'inquiétude, sa nature, sa gravité, ses résultats. Alors, quelle est l'importance, quelle est la gravité du sujet? Quelle est l'importance de ce sujet? Je vous dirais tout simplement que ce n'est pas pour rien que tout ce grand passage sur l'inquiétude figure dans le sermon sur la montagne. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans ce monde avec Dieu et dans la présence de Dieu si nous vivons dans le souci. Il n'est pas possible. L'inquiétude, ruine notre relation avec Dieu. Nous amène à entretenir une relation avec Dieu qui n'est pas correcte, qui est un mensonge, qui est déshonorant pour lui et qui nous sape et nous mine. Donc c'est un sujet vraiment de grande importance. Il y a des chrétiens dont la vie spirituelle est vraiment minée, sérieusement minée par l'inquiétude. Et je ne gronde pas, je veux essayer de vous aider aujourd'hui parce que c'est un sujet qui, c'est une difficulté qui nous, oui, qui nous tracasse tous. Il n'y a personne ici qui est complètement libre d'inquiétude, de soucis. Alors, qu'est-ce que l'inquiétude? Jésus dit dans ce passage trois fois, ne vous inquiétez pas. Mais c'est quoi l'inquiétude? D'abord, il faut que vous compreniez que Jésus n'est pas en train de parler de la prévoyance. Vous devez être prévoyant, n'est-ce pas? Vous devez regarder l'avenir et préparer dans une certaine mesure pour l'avenir. L'élève ou l'étudiant qui ne regarde pas son agenda et qui ne bosse pas pour l'examen dans 2 mois, il est tout simplement stupide. Mais il y a une grande différence, les amis, entre la prévoyance et l'inquiétude. Et l'inquiétude est plutôt une attitude méfiante, méfiante envers l'avenir. D'accord? Et presque obsessionnelle. La personne qui s'inquiète est toujours dans l'avenir. Il n'est pas dans aujourd'hui, mais il est projeté dans sa préoccupation, dans l'avenir et ce qui pourrait arriver. Et donc, il regarde cet avenir avec méfiance. Avec méfiance. OK? Et c'est ça que le Seigneur veut prévenir, hein, il veut nous sauver de ce problème. Le mot utilisé dans la Bible ici pour inquiétude est un mot dont la racine signifie diviser et le préfixe du mot signifie une part. Donc vous avez une part qui est divisée, éclatée. Et la personne qui, si vous êtes quelqu'un qui vous inquiète, c'est ça que vous êtes en train de vous éclater, de vous diviser, alors que vous devez être présent dans le présent, vous ne l'êtes pas. Les inquiétudes vous dispersent dans d'autres endroits où vous ne pouvez pas agir. Vous n'êtes pas dans le lendemain et vous ne pouvez rien faire. Donc voilà ce que c'est que l'inquiétude. Et l'inquiétude est un péché. Est un péché. Nous avons regardé dans le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Et dans le verset 31, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous. Et dans le verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Trois fois, le Seigneur nous donne un commandement solennel. Vous, en tant que chrétien, n'avez pas le droit de vivre inquiet. Et il est possible de ne pas le faire. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment ne pas vivre dans l'inquiétude, surtout aujourd'hui par rapport aux besoins matériels, au manger et au boire, et tout ce qui va avec. Quels sont les résultats de l'inquiétude? Si vous êtes inquiet, je vous promets qu'il y a plusieurs choses qui vous arrivent. D'abord, vos inquiétudes deviennent des obsessions. Vous y pensez trop. Deuxièmement, vos inquiétudes pervertissent votre image de Dieu parce que c'est le contraire de la confiance, l'inquiétude. Troisièmement, vos inquiétudes vous volent la paix, le repos de l'âme qui doit caractériser le chrétien tous les jours. Ce sentiment que nous sommes quelqu'un dont Dieu prend soin. Quatrièmement, si vous êtes inquiet, vous avez des problèmes physiques, probablement. Parce que les inquiétudes constantes sapent le corps même. Le livre de Proverbes en parle. Les médecins nous disent que le stress et l'inquiétude causent des problèmes physiques. Et cinquièmement, si vous vous inquiétez beaucoup, c'est que vous ne jouissez pas pleinement des joies d'aujourd'hui, parce que vous êtes en train de vous inquiéter pour les maux potentiels de demain. Ok, nous avons vu ce que c'est que l'inquiétude et nous avons vu pourquoi c'est important et quels sont les résultats de l'inquiétude. Mais maintenant, nous allons voir le remède à l'inquiétude pour le reste de ce sermon. Et nous allons voir quatre points. Vous pouvez les voir sur votre fiche A, B, C et D. Donc, regardez. Bonjour. Si vous voulez suivre. Jésus nous donne quatre points de remède contre l'inquiétude. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 34. Je vais juste les citer les quatre choses que nous allons voir. Corrigez vos perspectives fausses et incrédules. Réveillez-vous au déshonneur que vous faites à Dieu par votre anxiété. Redressez vos priorités et redirigez votre point focal. Donc, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous dire par ces quatre choses. Première chose, donc, nous sommes inquiets et nous pouvons le devenir moins en corrigeant notre perspective fausse et incrédule. Trois parties. Trois choses que si vous êtes une personne anxieuse, probablement vous avez une mauvaise pensée, une fausse pensée, une pensée incrédule sur trois choses. La première chose, c'est sur votre manière de voir la nécessité physique de la vie. Et probablement vous surévaluez leur importance. Regardez le verset 25. Jésus nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Jésus est en train de dire que le vêtement et la nourriture deviennent trop grands, surévalués dans leur importance. Ma retraite, l'argent nécessaire pour l'avenir, vous voyez, ces choses commencent à vous obséder, à prendre trop de place. Et oui, dans la vie de beaucoup de gens, l'immense préoccupation de l'argent, de la sécurité financière, de la sécu, est-ce que ça va tomber en France? Toutes ces choses. Alors que la vie est beaucoup plus. Il y a tout un monde d'intérêts importants au sujet de qui vous êtes dans votre caractère, votre relation avec le Dieu éternel, le royaume de Dieu et tout ce que Dieu est en train de faire pour sauver des hommes et des femmes. Il y a mille mille questions et domaines et problèmes dans la vie dont vous ne pensez même pas. Si vous rétrécissez votre préoccupation sur le manger, le boire, l'argent, la retraite et l'avenir. Vous avez un regard beaucoup trop étroit et vous surévaluez vraiment l'importance de la nourriture et du vêtement. Est-ce que la vie n'est pas beaucoup, beaucoup plus que tout simplement cela? Vous survivez pour survivre? Si vous avez la nourriture, c'est juste pour avoir la nourriture. Et si vous avez dépensé tellement d'énergie et de pensées sur le fait d'avoir la nourriture et vous avez complètement raté la raison pour laquelle on veut la nourriture, c'est pour vivre et servir le royaume de Dieu et devenir quelqu'un qui vit dans le sens où Dieu nous dirige. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous vous inquiétez au sujet de quelque chose, cette chose devient très très grand, n'est-ce pas? Votre enfant ne rentre pas à l'heure, 23 heures, minuit, 1 heure, et vous ne pouvez penser qu'à cela. Ou bien la fille qui doit aller à une soirée et elle ne pense qu'à une chose, quelle robe est-ce que je vais porter? Où est-ce que je vais trouver la bonne robe? Et puis tout passe à la poubelle parce qu'elle ne pense qu'à ça. Ses examens, elle n'y pense pas. Ses amis, parce qu'elle n'a pas la bonne robe. N'est-ce pas? Un souci est souvent une question de surévaluation. Et Jésus est en train de nous dire, là, vous êtes pris dans un piège. Vous pensez que c'est beaucoup trop important. Dieu vous a appelé à vivre pour beaucoup plus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ok, ça c'est la première chose à corriger dans notre manière de penser. La deuxième chose, c'est que nous devons corriger notre manière de penser à Dieu notre Père. Et là, nous n'avons pas une surévaluation, nous avons une sous-estimation. Nous n'estimons pas à quel point Dieu est fidèle et puissant et nous regarde et s'occupe de nous. Donc, nous voulons voir cela. D'abord, Jésus nous dit dans le verset 26 et suivant, deux fois, il dit, regardez les oiseaux du ciel, et ensuite, il nous dit au milieu du verset 28, observez comment croissent les lys des champs. Prenez du temps, chers amis. Dieu a mis dans le monde une révélation visible. Partout, on ne peut pas s'esquiver de cette révélation. Les oiseaux nous entourent, l'herbe et les lys des champs, les fleurs. Tout le temps, Dieu est en train de nous donner un message. Et nous devons prendre le temps pour regarder qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jésus nous dit dans le verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est la manière normale dont nous avons l'argent pour le vêtement, la nourriture pour l'avenir. Mais ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Il n'y a pas de sécu des oiseaux. D'accord? Leur avenir, ils n'ont rien stocké quelque part pour demain. Vous voyez? Il n'y a aucune provision gardée quelque part pour la semaine prochaine, pour les oiseaux. D'accord? Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Combien d'oiseaux y a-t-il dans le monde? Vous savez qu'on nous dit qu'il y a à peu près 7 milliards d'êtres humains, mais il y a entre 100 milliards et 400 milliards d'oiseaux sur cette planète. Et chaque jour, ils sont tous nourris sans avoir une provision pour l'avenir, sans semer, sans travailler. Et la Bible dit que c'est le Père céleste, chaque jour, qui est en train de les nourrir. C'est incroyable. Et, chers amis, les oiseaux sont un portrait d'insouciance, d'absence d'inquiétude. Ils sautillent et chantent, ça c'est un peu leur vie. Ils dansent et chantent tous les jours et mangent. Pourquoi? Parce que le Père céleste est là et prend tellement bien soin d'eux. Et cela est une réalité qui est devant nos yeux tous les jours et ça ne change jamais. La fidélité du Père ne disparaît jamais. Et les oiseaux chantent et mangent. Et Jésus nous dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux pour le Père? La Bible nous dit que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire nous, les fils de Dieu, nous sommes tellement importants pour le Père. Va-t-il prendre tellement bien soin des oiseaux et puis nous, oh, on a été complètement oubliés. C'est impossible. Ensuite, le Seigneur nous dit de regarder les lys. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Encore, ils font rien. Ils n'ont pas de salaire régulier. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, le roi le plus riche de l'histoire d'Israël, et Jésus est en train de dire que quand le Père prend soin de ses enfants, il n'est pas simplement question de leur donner ce qui est à peine suffisant. Hein? Les lys des champs sont habillés de manière plus glorieuse que le plus glorieux des personnages de l'histoire d'Israël. Et il nous dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe, donc les lys, c'est l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Vous voyez, à plus forte raison. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que si Dieu fait cela pour les fleurs, il va le faire bien plus et bien plus sûrement pour vous parce que vous valez bien plus pour lui que les fleurs des champs. Souvent, nous avons ce problème que nous oublions quelle est la relation entre nous et le Père. Nous ne comprenons pas. Ce ne valez-vous pas beaucoup plus? Vous voyez? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la valeur dont Dieu nous a investi en tant que ses enfants? En tant que, vous savez que tout le reste des rouages de ce monde n'est qu'un échafaudage tissé pour notre bonheur. Pour assurer notre bonheur. Nous sommes le point principal de la création de la planète Terre. Voilà, donc nous voyons que nous sous-estimons de manière incroyablement grave le soin, l'amour, la présence, la fidélité donc invincible de notre Père vis-à-vis de nous. Et nous avons ces deux portraits, les oiseaux et ce qu'ils mangent, les fleurs et comment ils sont vêtus. Pour que nous puissions ne jamais, nous plonger complètement dans l'inquiétude. Il suffit de marcher dehors un peu et de, ah oui, tout va bien avec les fleurs, tout va bien avec les oiseaux. Dieu, c'est parce que le Père les vêtit. C'est parce que le Père les nourrit. Et ce même Père qui ne change jamais de jour en jour envers eux, ne change pas envers moi. C'est une certitude. Mais la troisième chose que nous devons changer dans notre manière de penser, ce n'est pas simplement l'importance des nécessités physiques que nous surestimons, ce n'est pas simplement la fidélité du Père que nous sous-évaluons, mais c'est aussi notre manière de voir le pouvoir du souci humain. Là, nous surestimons. Vous savez, à regarder les hommes et les femmes, parfois, on dirait que ils pensent que le souci est une puissance surnaturelle qui soulève les montagnes, parce qu'ils utilisent tellement ce pouvoir de souci. Et Jésus nous dit dans le verset 27 quelque chose d'intéressant. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Vous savez ce que c'est qu'une coudée? Coude? Une coudée, c'est la distance entre le coude et les doigts. Donc à peu près 50 centimètres. Jésus est en train d'envisager la vie d'un homme ou d'une femme comme une longue marche. Nous le faisons tout le temps, n'est-ce pas? Mon pèlerinage dans ce monde, n'est-ce pas? On regarde la vie comme une longue marche, n'est-ce pas? Alors, il dit, par vos soucis, est-ce que vous pouvez, et je dois vous dire que j'ai fait le calcul, hein, si la vie humaine est une marche, et si on marchait 20 km par jour, qui, dans cette métaphore, ce serait quelque chose comme ça. Vous savez combien on marcherait dans une vie? 50 000 km. 50 000 km. Maintenant, Jésus dit, qui de vous, par le fait de se soucier, peut ajouter 50 centimètres à cette marche de sa vie? C'est ridicule, n'est-ce pas? En d'autres termes, je crois que nous sous-estimons la puissance du fait de se soucier. En fait, le fait de se soucier est ridicule parce que ça n'accomplit rien. Pensez juste un moment. Vous avez un souci de travail, un souci d'examen, un souci de compte bancaire, un souci de santé physique. Vous avez passé la nuit à vous soucier intensément au sujet du boulot, de l'examen, de la santé physique, du compte bancaire. Quand vous vous levez le lendemain, est-ce que votre nuit intense d'activité et d'inquiétude a changé quoi que ce soit au travail, dans le compte bancaire, quand vous consultez? Vis-à-vis de l'examen ou dans votre santé physique? Qui d'entre vous peut ajouter 50 cm à la distance de votre vie par vos soucis? Le train était en retard. C'est ce que vous craigniez. Mais est-ce que vos craintes ont changé le temps de l'arrivée du train? Nous avons besoin de changer notre attitude au sujet du pouvoir du souci. En fait, le souci ne peut qu'aggraver les problèmes. Bien, ok, donc ça c'est la première chose que Jésus nous dit, que nous devons changer notre perspective incrédule et incorrecte vis-à-vis de certaines choses. Et nous avons vu trois choses. L'importance des nécessités physiques, la fidélité du Père à prendre soin de nous et notre pouvoir de changer les choses par notre souci. Maintenant, plus brièvement, la deuxième chose que le Seigneur nous dit, c'est que pour quitter cette vie d'inquiétude, parfois nous avons besoin d'un coup de pied, vous savez où. Réveillez-vous au déshonneur que vous faites à Dieu par votre anxiété. Les versets 31 et 32. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les païens qui le recherchent. Oh, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il n'y a rien de plus réveillant pour un juif que d'entendre que dans cette conduite, il se ressemble exactement comme les païens qui se mettent à genoux devant des bouts de bois. Et dont la perspective de la vie est formée par cette fausse croyance ridicule. Et Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez pas, ce sont les païens qui vivent dans l'inquiétude. C'est les athées, c'est les non-croyants, c'est les gens qui sont livrés à eux-mêmes, qui pensent comme ça. En venant ce matin, j'ai entendu le moineau qui disait à un rouge-gorge, tu sais, je voudrais vraiment savoir pourquoi ces êtres humains anxieux se précipitent et s'affairent et se soucient tellement. Et le rouge-gorge a dit au moineau, je pense que ça doit bien être qu'ils n'ont pas de Père Céleste qui prend soin d'eux comme nous en avons. Si, quand mes enfants étaient petits, je découvrais que mes enfants gémissaient dans leur lit, soucieux, en se demandant est-ce que nous aurons de quoi manger la semaine prochaine? Moi, je serais effondré comme père. Mon enfant, moi, je suis là pour vous. Vous n'avez pas besoin, nuit après nuit, de gémir. Ce sont des orphelins. Ce sont des enfants avec des pères complètement dingues, qui sont absents, qui sont drogués, qui ne travaillent pas, qui ne font rien. Ce sont des enfants de ceux-là qui doivent gémir dans leur lit. Pas mon enfant. Vous voyez? Et parfois, nous avons besoin que Dieu nous dise, mon enfant, c'est pas vous, c'est pas toi qui dois gémir. C'est ceux qui sont sans moi, sans Dieu et sans espoir dans le monde. N'agissez pas comme eux. Je ne l'admets pas. Ensuite, le Seigneur nous dit dans le verset 33 que nous devons redresser nos priorités si nous voulons arrêter d'être quelqu'un d'inquiet. Le verset 33 est un verset vraiment bien connu. Là, le Seigneur nous dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela, le vêtement et la nourriture, vous sera donné par-dessus tout. Souvent, on parle de ce verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et on donne tout un enseignement là-dessus, et on demande aux croyants, est-ce que le royaume de Dieu est premier dans ta vie? Et c'est juste de faire cela. Mais je vais pas vous parler comme ça. Parce que ici, ce verset fait partie d'une discussion sur l'inquiétude et comment ne pas être inquiet. Et le problème que vous avez si vous êtes inquiet, c'est que votre point focal dans la vie est mal placé. Vous savez que on ne peut pas se soucier, se préoccuper de deux choses à la fois. Pas dans le même degré. Et si mon plus grand souci est le royaume de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie éternelle et tout ce que ça signifie. Soyez préoccupés par cela, parce que c'est grandiose, c'est éternel en importance. Alors je vous assure que vous n'auriez pas même le temps de penser de manière inquiète aux vêtements, à la nourriture. Dans ce passage, Jésus le donne comme la seule chose concrète que vous pouvez faire pour assurer votre vêtement et votre nourriture pour l'avenir. C'est quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera ajouté par-dessus. Donc ça veut dire tout simplement ceci, les amis. La nourriture et les vêtements sont des choses que Dieu ajoute à quelqu'un qui cherche premièrement son royaume. Je suis d'accord avec vous, vous devez travailler, vous devez, etc. Mais ce travail fait partie de ce que Dieu va vous donner quand vous cherchez premièrement son royaume. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Dieu nous donne nos nécessités physiques lorsque nous ne cherchons pas son royaume en premier? Mais si nous cherchons les choses qui sont à lui en premier, il cherchera les choses qui sont à nous pour nos besoins physiques. Et rappelez-vous que dans l'histoire du monde, je parle principalement à des gens qui sont français ou vivent en France. Un jour, quand je vivais dans une autre ville, ma voisine m'a dit, j'aimerais bien visiter d'autres pays, mais je pourrais pas rester dans un autre pays parce que j'aurais une peur bleue de vivre en dehors du système de sécurité sociale français. J'ai compris qui était son Dieu. Sa sécurité dépendait de cela. Mais vous devez savoir que dans la plupart de l'histoire humaine et dans la plupart des pays aujourd'hui, il n'y a pas de système de sécurité sociale. Et les gens vivent et vieillissent et ils ont ce qu'il faut. Et il n'y a aucune retraite, il n'y a aucune pension. Je dis ça parce qu'on nous a lavé le cerveau pour. Et bien des Français pensent que leur avenir dépend de cela. Je vous dis, c'est une fausseté incroyable. C'est une fausseté incroyable. Dans la plupart de l'histoire, les hommes ont eu ce qu'il leur fallait et ils n'ont pas vécu avec un système de sécurité sociale. Pour une chose, Dieu donne son Église pour prendre soin des siens. Et il a ses moyens de subvenir à nos besoins, en tout cas. Voilà, redressez vos priorités. Et la dernière chose, c'est changer ou rediriger votre point focal. Regardez avec moi le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus n'est pas en train d'interdire la planification, hein, de prévoir des choses, mais une fois que nous planifions et que nous mettons en place des choses à faire aujourd'hui pour demain, nous laissons demain dans la main, du Seigneur. Et Jésus, est-ce que vous avez remarqué que Jésus est en train de faire le contraste entre deux jours? Il parle du lendemain, et puis il parle de à chaque jour suffit sa peine. Le chaque jour, c'est le aujourd'hui. Et Jésus est en train de dire que demain, c'est la propriété du Seigneur. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vivez pas dans le lendemain. Ne vivez pas dans l'avenir. Vous ne pouvez pas faire grand-chose au sujet de l'avenir. Et une fois que vous avez fait ce que vous pouvez pour l'avenir, vous ne pouvez plus rien faire. Ne vivez pas mentalement. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont experts dans le business d'importation. Des imports. Et ils importent dans le présent les malheurs de demain. Les malheurs potentiels qui vont peut-être même pas exister. Et tous les jours, ils sont en train d'importer. Il y a des navires qui arrivent dans leur vie. Ils sont en train d'importer des choses qui appartiennent ailleurs. Il y a plein de places pour stocker tout ça. Qu'est-ce que je fais? N'est-ce pas? Mais c'est ce qu'on fait parfois. Mais Jésus dit, ne vivez pas dans l'avenir. Si vous faites, vous serez toujours inquiet. Vivez pleinement dans le aujourd'hui. Vivez dans le maintenant. Dans la tâche d'aujourd'hui, dans le service d'aujourd'hui, dans les joies d'aujourd'hui, dans les occupations d'aujourd'hui. Vivez maintenant, pleinement, comme un don de Dieu et comme un devoir de Dieu aujourd'hui, ce qu'il faut faire. Parce que à chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire n'importez pas des peines supplémentaires, vous en avez déjà assez dans ce jour présent. Je suis d'accord avec vous que vous ne pouvez pas fermer vos inquiétudes comme un robinet, simplement par un acte de la volonté. Mais vous pouvez rediriger vos pensées du lendemain au présent. Et vous pouvez être déterminé de ne pas vivre mentalement dans le lendemain, dans les soucis potentiels. Vous pouvez dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi, ce n'est pas ce qu'il veut de moi, il s'occupera du lendemain. Et la peine de lendemain sera la mienne demain, mais pas aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous donne ces recommandations tellement efficaces, tellement sages, de changer notre manière de penser. La nourriture et le vêtement, ce n'est pas aussi important que ça. La vie est plus que cela. Changer notre perspective au sujet du Père et son soin incroyable, de changer notre perspective au sujet du pouvoir de notre souci, qui n'est aucun, et de nous réveiller au déshonneur que nous faisons au Père lorsque nous vivons dans l'inquiétude, redresser notre priorité et chercher premièrement le royaume de Dieu et rediriger notre point focal sur le présent. Alors, tout cela, j'espère que nous pouvons simplement prendre ces enseignements et commencer à travailler. Parce que entendre un sermon là-dessus, c'est une chose, mais c'est un travail, c'est un changement gigantesque de notre manière de vivre dans ce monde. Et c'est pourquoi je vous ai dit que le passage au sujet de l'inquiétude est un enseignement énormément important pour nous. Nous allons chanter au Seigneur Je crois que Nicky a entendu. Non, non, elle ferme la porte.